Vous écoutez Entrepreneur Too, le podcast qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui mettent en valeur le jeu vidéo, ses créations, ses créateurs et ses créatrices. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Enterplayer 2. Je suis votre hôte Donny Jeep et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marine qui est directrice et commissaire d'exposition pour Pixel Life Stories, donc qui est une galerie d'art vidéoludique, mais qui est aussi enseignante conférencière, journaliste indépendante. Bref, elle a beaucoup de cordes à son arc et c'est ce qu'on va découvrir durant le moment qu'on va penser ensemble. Donc bonjour et bienvenue à toi Marine.
Bonjour, bienvenue.
Ben, merci. Alors oui, comme je disais, tu as beaucoup de cordes à ton arc, mais avant de rentrer un peu dans le, on va dire, dans le niveau principal de tout ce que tu fais, et il y a beaucoup de choses à en dire, ben, comme d'habitude, on va commencer l'émission avec ce que j'appelle le petit niveau tutoriel, donc pour prendre un peu contact avec toi, et donc, ben, si tu pouvais nous parler un petit peu, dire qui tu es, puis un peu quelles études tu as fait, comment tu en es arrivé, en fait, à parler de ce dont tu parles et de ce que tu mets en valeur autour du jeu vidéo.
Alors, donc, large question, tu as déjà un petit peu esquissé les différentes étiquettes que je peux porter au quotidien. Donc effectivement, je vais peut-être parler un petit peu des études que j'ai faites d'abord pour expliquer là où j'en viens, où j'en suis aujourd'hui. Donc moi en fait j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai commencé l'histoire de l'art dès que j'étais au lycée en fait, il y a une petite passion qui s'est mise en place pour le monde de l'art et tous ses artistes. Et en fait, une fois que j'ai fini ces quelques années, je me suis dirigée vers un IUT de communication journalisme parce que je voulais pouvoir avoir toutes les compétences nécessaires pour parler un petit peu de ces sujets-là, d'avoir un style d'écriture qui puisse me permettre de m'exprimer sur tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que l'histoire de l'art me manquait quand même beaucoup. Et donc, après l'IUT, je me suis tournée vers un double cursus à l'université. Donc, j'ai fait une licence en information communication et en histoire de l'art. Et après, je me suis dirigée vers un master de recherche. C'était à Rennes, en tout, que j'ai fait tout ça. En fait, j'ai étudié le paysage vidéoludique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un paysage dans un jeu vidéo. Et donc, j'ai fait tout un mémoire de recherche sur cette thématique-là. Et donc, voilà, ça m'a amené à 5 ans, 6 années d'études en tout. Et puis, donc une fois que j'ai fini ces études-là, je me suis... j'ai fait un certain constat de mon côté, c'est qu'il y avait très peu, en fait, de sites, de ressources qui donnaient la parole, en fait, aux artistes qui travaillaient dans le milieu du jeu vidéo. Et je dirais même que le jeu bénéficiait d'une image qui était encore un petit peu négative. On avait peine à légitimer le jeu vidéo comme potentielle forme artistique, ou en tout cas comme terrain d'expression. Et de fait, j'ai décidé de pallier un petit peu à tout ça, de mettre, on va dire, ma petite pierre à l'édifice. Et c'est là que j'ai commencé en fait, à fonder la galerie Pixel Life Stories. Donc, c'était au cours de ma dernière année d'études que je l'ai fondée. Et donc, j'ai commencé à développer ce projet-là. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, la galerie fonctionne bien, mais effectivement, au début, c'était plus un projet personnel. Je ne pensais pas du tout que ça allait me guider vers... une activité professionnelle sérieuse, c'était vraiment plus presque de l'ordre du hobby. Et en fait, comme il y avait très peu de choses sur ces thématiques-là et que j'étais un peu la seule dans le panel de gens qui s'y intéressaient, ben très vite, ça s'est développé, ça a bien pris et ça fait qu'aujourd'hui, ça marche très très bien. Et donc, pour présenter peut-être un petit peu Pixel Life Stories, donc c'est une galerie d'art vidéoludique consacrée entièrement aux jeux vidéo. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre au milieu professionnel, en tout cas toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du jeu, de pouvoir exposer un petit peu leur travail, leur processus de création. Donc on a des espaces d'exposition qui sont propres aux studios ou aux artistes à titre individuel. Et à côté de cette plateforme d'exposition, je tenais à proposer aussi un espace, on va dire, de critique. Donc critique positive ici, hein. L'idée, c'était surtout de pouvoir... discuter en fait autour des enjeux bien culturels, artistiques qui sont propres aux jeux vidéo. Et donc, soit c'est moi qui fais des petites rubriques sur ces sujets-là, soit je donne la parole soit à des journalistes, soit à des chercheurs. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de pouvoir mettre en valeur la recherche en fait qui est portée par tous les chercheurs en game studies, hein, les études propres aux jeux vidéo. Et donc, on échange un petit peu sur tous ces sujets-là. Donc voilà, j'essaie d'impulser un petit peu cette plateforme. Je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien et que toutes les personnes qui transitent sur cette galerie, eh bien, ça prend bien en France, mais ça prend aussi à l'étranger. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant en fait, de voir que l'engouement se fait à l'international, qu'on a des réflexions qui viennent d'un petit peu partout. Ça prouve bien que voilà, il y a une demande, il y a une envie de parler de ces sujets-là. Et donc voilà, je suis très contente de pouvoir faire tout ça aujourd'hui.
Comme tu dis, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Je me souviens en fait, moi, je crois que je commençais à le suivre quand tu l'as lancé. Et effectivement, ça, comme tu dis, c'était plus personnel. Je dis pas que c'était un blog parce que c'était déjà super bien mis en place. Mais c'est vrai qu'après, ça a pris une grande dimension. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. Ben, de toute façon, c'est le but de l'émission, hein, de faire venir des gens qui mettent en valeur les choses. Et c'est vrai que ça permet de, comme tu dis, de faire un focus sur quelque chose dont on ne parle pas suffisamment encore et qui est un petit peu mis de côté. C'est vrai qu'on parle de jeux vidéo, même quand on voit des podcasts, des spécialisés, on a pas mal de développeurs, ce qui est important de mettre aussi en valeur les développeurs et qu'on n'ait pas toujours les mêmes noms qui s'affichent sur les jaquettes. Mais c'est vrai que tout ce qui est concept art, c'est quelque chose, on va trouver les livres d'artbook, tout ça, on trouve ça joli. Et encore, je pense que c'est quelque chose de niche, à part quand t'es fan d'un jeu, tu l'achètes, mais sinon, ça peut rester quand même quelque chose de niche dans l'édition. Même si c'est déjà, on va vers le beau livre, hein, c'est plus le livre sur le jeu vidéo, et donc c'est vrai que c'était une bonne chose. Et avant que Pixel Life prenne, tu dis, donc t'as fait des études, donc t'as eu déjà le côté journalisme et dans l'art, justement ce côté vouloir mettre en avant l'art, t'as jamais pensé toi-même à en faire, ou est-ce que tu en fais? Parce que je crois que si je dis pas de bêtises, ton petit frère fait des études de concept art, non?
Oui, bah on va dire que le jeu vidéo et plus largement la thématique du concept art est très présente dans la famille. On est très porté là-dessus. J'aurais beaucoup aimé en fait faire du concept art moi-même. Le fait est que j'ai un très mauvais karma en informatique. Je vraiment, je suis nulle en fait. J'arrive pas. Enfin, l'outil informatique me bloque très souvent. Et le problème c'est que dans ces disciplines-là, on est effectivement sur des disciplines qui demandent une très forte sensibilité artistique. Mais on a aussi un pendant technique qui est très important en fait. Souvent, la technique permet de libérer la créativité et inversement. Et moi, j'aurais pas pu en fait me diriger vers, enfin, vers de la. En tant que praticienne de concept art, j'aurais pas pu en fait. Clairement, j'aurais été bloquée par les outils. Même si on peut faire du concept art à titre traditionnel, avec des outils traditionnels. Mais après, il faut être en phase aussi avec l'industrie. On fonctionne beaucoup sur des outils numériques. J'aurais pas pu faire ça. Mais du coup, c'est très bien, effectivement, que le petit frère puisse s'exprimer de son côté en tant que praticien. Ça me permet, en fait, d'avoir une vision double de la pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, comme j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai une vision, celle d'une historienne de l'art, même si je ne suis pas historienne de l'art. Mais je vais avoir une vision qui est très analytique d'un processus de création, d'une direction artistique, etc. Tout ce qui est apport de réflexion dans la création pure. Effectivement, quand tu n'as pas l'habitude d'utiliser un outil, il y a forcément des choses qui t'échappent et que tu ne vas pas comprendre dans l'analyse d'un titre, d'un jeu, d'une manière de faire. Et le fait d'avoir le petit frère, effectivement, qui est beaucoup là-dessus, des fois, il me dit, tiens, regarde, là, dans la conception de l'image, il y a tel outil qui a été utilisé, du coup, ça induit ça en termes de processus, donc ça induit ça en termes de résultats graphiques. Et ça, pour le coup, c'est bien d'avoir une approche qui soit complémentaire comme ça. Bon, bien évidemment, j'échange beaucoup avec des concept artistes et directeurs artistiques pour vraiment comprendre leur processus de création. Et c'est souvent d'ailleurs dans le processus que se joue la compréhension d'un résultat. Mais voilà, moi j'aurais pas pu en faire. Non pas que j'ai pas envie, mais je pense que j'aurais été très vite limitée par les outils.
Donc on parle des concept artistes, justement, c'est peut-être le moment aussi de faire la différence. Je sais que c'est un de tes chevals de bataille, et pour le coup, je vais pas dire que tu te bats contre des moulins à vent, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est la différence entre le concept artiste, qui est totalement différent, hein, en fait, des illustrateurs. Parce que la question que je vais te poser, c'est, même si tu fais pas de concept art, est-ce que toi, t'aimes dessiner, ou est-ce que t'as pas du tout la main? Enfin, après, ça se travaille, c'est comme pour tout, parce que tu vas, je pense, l'expliquer très bien, ça te permettra, avant de parler plus de tout ce que tu fais, la différence entre faire un concept artiste n'est pas forcément un illustrateur. Enfin, il peut faire des illustrations de certains côtés, mais c'est totalement deux choses différentes, et je sais que c'est quelque chose dont récemment tu as fait tout un thread sur Twitter, et tu as fait une vidéo aussi. On parlera, sans te parler, de ce que tu fais aussi en termes de vidéo, qui s'appelle maintenant donc un PLS Review, donc pour Pixel Life Story, hein, pas pour les positions latérales de sécurité, où justement tu expliques bien ce qu'est la différence entre un illustrateur et un concept artiste.
Ouais. Bah en fait, le dessin, oui, j'en ai déjà fait quand j'étais un petit peu plus jeune et je l'ai poursuivi mais de manière assez partielle quand j'étais justement en études d'histoire de l'art, hein, puisque j'avais des cours en fait qui portaient aussi sur de l'archéologie ou de l'art celtique, ce genre de choses. Et comme il fallait toujours comprendre les motifs, étudier des motifs, des manières de faire, j'avais beaucoup de carnets de croquis en fait où je venais croquer les objets qu'on étudiait en cours pour pouvoir mieux les retenir en fait, parce que moi je fonctionne beaucoup par mémoire visuelle, j'ai une très bonne mémoire visuelle, et comme on voyait toute une constellation d'objets et que c'était difficile de retenir toutes les dates avec tous les lieux à chaque fois, moi je les dessinais en fait, c'était ma manière d'apprendre de retenir. Donc le dessin a toujours fait partie de mes méthodes d'apprentissage, on va dire ça comme ça. Et pour rebondir sur effectivement cette thématique du concept art et de pourquoi il faut le différencier avec l'illustration, ça c'est quelque chose en fait que j'ai rapidement compris quand j'ai commencé en fait à étudier le concept art, puisque quand j'étais en études, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait un mémoire sur le paysage dans les jeux vidéo. Et j'étais très intéressée par la manière dont les artistes allaient s'inspirer, aller chercher tout un tas de références visuelles en fait pour construire leur propre représentation artistique. Et c'est là que j'ai compris en fait toute la technicité aussi qu'il y a derrière comment dire, la discipline du concept artiste. Quand je dis technicité, il faudrait plutôt que je parle de fonctionnalité, puisque effectivement tout ce que produit le concept artiste, c'est pas des jolis dessins qui visent juste à réfléchir à quel type d'esthétique on pourrait utiliser pour que ça plaise visuellement. Bien évidemment, il y a la question du plaisir, de la satisfaction qui entre en jeu, mais là, on est vraiment sur des réflexions beaucoup plus techniques sur, oui, tu dois développer une esthétique pour un jeu, pour un film ou de l'animation, ok, mais en quoi cette esthétique, elle va entrer dans un tout, dans un système? J'ai déjà fait pas mal de billets en fait sur la galerie Pixel Life Stories où en fait je montre un petit peu comment se construit une direction artistique et on voit bien que entre les premiers concepts qui ont été produits et les derniers, en tout cas ceux qui vont être conservés pour un titre, il y a beaucoup d'itérations, il y a beaucoup de réflexions. Pourquoi il y a beaucoup de changements? C'est tout simplement parce que le premier choix sera rarement le bon, ou en tout cas il faut avoir de la chance. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes dans une production de jeu, alors des contraintes qui peuvent être industrielles, des contraintes de temps, des contraintes d'argent, des contraintes techniques, ou des choix qui sont faits. Bref, tout ce contexte, toutes ces circonstances vont agir sur les choix qui sont faits. Donc, les concepts, ce ne sont pas des jolies illustrations, ça vise vraiment à répondre à des besoins, à des spécifications. Et donc, d'où l'importance, pardon, de dissocier cette activité de l'illustrateur avec le concept artiste. Il y a bien cette maîtrise du dessin qui est à la base du métier, mais la fonctionnalité qu'on prête à l'image qui est produite, elle est complètement différente. Et ça, je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus, on va dire, dans les médias. Même tu parlais de artbook tout à l'heure. Souvent, les artbooks, ce sont de très très beaux ouvrages avec beaucoup, effectivement, de concepts qui sont là. Mais on a peu d'analyses, en fait, peu d'analyses qui leur sont associées, le pourquoi de l'image, comment ça a été construit, dans quel objectif. On nous les vend un petit peu, souvent selon des discours un peu marketing, quoi. Voilà, regardez tout ce qu'on a produit pour le jeu, bah oui, c'est très beau, c'est très plaisant à regarder. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre, en fait, pourquoi ça a été produit. Et donc, c'est pour ça que je parle de tous ces sujets-là, c'est de pouvoir, on va dire, mettre en lumière un petit peu plus cette discipline et puis sa raison d'être, en fait, dans une équipe plus large de production.
Je comprends ce que tu dis, et pour en revenir aux artbooks, c'est tout à fait ça. Moi, je sais que j'en ai quelques-uns sur les jeux que j'aime, mais c'est vrai qu'en fait, souvent, je les regarde, mais quelque part, voilà, je les regarde, mais je les lis pas, et ça me manque, et c'est pour ça que j'en achète pas énormément. C'est parce que justement, comme tu dis, ce côté analyse, souvent, c'est assez chiche, en fait, et le problème, c'est ça, c'est que moi, j'avoue que c'est plus l'analyse, c'est le pourquoi de la création, parce que quelque part, ils vont mettre le nom de la personne qui a créé le concept art, d'accord? Mais comme en fait on va pas sur le fond et on a quelque part que la forme, c'est une manière aussi de mettre en valeur d'un certain côté, mais aussi je trouve d'invisibiliser en fait les concept artistes malheureusement, et toi c'est tout l'intérêt du travail que tu fais, c'est qu'en fait c'est un peu des hommes et des femmes de l'ombre, ils sont un peu invisibilisés alors qu'ils sont au tout départ de la production, que c'est quand même quelque chose de difficile comme tu dis, parce que ils peuvent passer des heures et des heures sur un concept, et après si le studio dit ben non finalement on part sur leur direction, et ben c'est du boulot qu'ils ont fait, pas pour rien parce qu'on fait jamais pour rien, mais je veux dire,
Oui.
tu vois un changement comme ça. Et c'est vrai que malheureusement, pour l'instant, Alors, peut-être que ce sera toi qui vas t'y mettre aussi, parce que je crois que tu as un projet de bouquin, donc je sais pas si tu peux en parler ou pas. Mais justement, un truc plus analytique, et tu le fais déjà justement sur le sur Pixel Life, et même moi qui suis pas hyper versé en tant que néophyte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement. On voit le coup de, on va dire le crayon, non, parce qu'ils font aussi par informatique, mais on voit ce qu'ils font, et c'est bien aussi de donner de la parole justement, de les entendre parler, et c'est malheureusement ce qu'on voit pas assez, et c'est pour ça que tout l'intérêt du travail que toi tu fais sur Pixel Life. Et que d'autres fois aussi, je sais qu'il y a des podcasts aux États-Unis, je sais plus lequel, j'avais écouté aussi quelqu'un qui fait des interviews de, ben justement, de concept artistes, et c'est passionnant. Et justement, ces gens-là, on leur donne pas suffisamment la parole, comme tu dis, on a plus tendance à les afficher, à leur dire, ben voilà, c'est joli. Et tu vas peut-être parler aussi, en parlant d'affichage, du fait que souvent, ben, on va mettre, ah, j'adore ce concept art, j'adore ce truc-là, et on le met, on le balance sur Internet, on met même pas, on crédite même pas le nom de l'artiste, et ça, c'est pareil, le droit d'image, de mettre en valeur, ne serait-ce que par citer, et mettre le nom de la personne, voilà, moi c'est un truc qui je faisais cette erreur-là avant, hein. Je mettais mon truc, je le mettais sur Internet, maintenant j'essaie vraiment de trouver le crédit de l'auteur, parce qu'on le trouve partout, Pinterest c'est le pire pour ça, et t'es là, mais mettez le nom, enfin c'est honteux quelque part, enfin vous volez le travail de quelqu'un, ça aussi c'est quelque chose sur lequel tu te bats.
J'ai abandonné Pinterest, ça c'est, je ne l'utilise pas, je trouve que ça respecte pas assez les droits de chacun, justement, sur ces propriétés intellectuelles, tout le monde partage tout. Tu sais pas trop à qui ça fait référence. Tu as du mal à identifier le nom des artistes. Et je trouve que c'est un petit peu problématique sur la plateforme. Enfin, pour celle-ci, en tous les cas. Je respecte tous ceux qui utilisent Pinterest. Hein, vous avez le droit de l'utiliser. Je dis juste que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à identifier à chaque fois les auteurs. Donc j'ai laissé tomber cette plateforme-là parce que je trouve que c'est pas suffisamment efficace, pertinent. Bref, je rebondis sur tout ce que tu m'as tout ce que tu m'as dit juste avant. Effectivement, quand tu parles de mettre en lumière un artiste, le artbook, c'est très bien, hein, parce que tu vas avoir plein de productions voilà, qu'ils ont pu produire dans le cadre du studio. Tu vas avoir leur nom en bas à droite de la page, mais tu vas pas en savoir beaucoup plus sur l'auteur, sur le pourquoi il produit de l'art, qu'est-ce qu'il aime en fait dans l'art. Quelles sont ses inspirations personnelles, comment ces inspirations elles infusent dans son univers singulier, dans sa pratique professionnelle et aussi personnelle, puisque les concept artistes, oui, produisent beaucoup de concepts pour l'industrie, mais généralement, c'est quelque chose que j'observe beaucoup, c'est que quand ils produisent des œuvres personnelles, leur processus de création est complètement différent, précisément parce qu'il n'y a pas ce fameux contexte industriel dont je parlais tout à l'heure qui vient vraiment les obliger à répondre à certaines timelines, etc. Donc, il y a beaucoup plus de liberté de ce point de vue-là. Et ça, en fait, dans les expositions qu'on peut trouver sur le concept art, c'est vrai que c'est difficile de voir des expositions qui vont passer outre juste le fait de faire des grandes reproductions de concepts, de les afficher telles quelles, et puis, généralement, ils vont s'arrêter là, quoi. Tu vas peut-être avoir le nom d'artiste si tu as de la chance, mais après, tu vas pas avoir, d'anecdotes de production ou de réflexions sur, sur la fonctionnalité, etc. C'est pour ça que je reviens sur cette fameuse bataille entre concept art et illustration. À partir du moment où on a compris la différence entre les deux, on ne peut plus, dans une exposition, afficher un concept art comme on afficherait une illustration. Il y a forcément cette compréhension de l'objet, de l'artefact, qui doit entrer dans la scénographie, dans le discours scientifique qui accompagne une exposition. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans le cadre d'une prochaine exposition que je suis en train de conduire en Suisse actuellement. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment, mais en fait, c'est une exposition qui va analyser des directions artistiques de jeux japonais ou de jeux qui sont inspirés par la culture japonaise. On va avoir énormément de concept art qui vont être exposé dans le cadre de cette exposition parce que je voulais vraiment pouvoir révéler le processus de création de chacun de ces concepts. Et en même temps, pour pas justement entrer dans une scénographie qui soit celle que je dénonce, c'est-à-dire scénographie un peu vide où on donne des choses à voir et puis point. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la parole à tous les acteurs du studio. J'ai envoyé en fait des scripts d'interviews assez poussées en fait pour que chacun puisse analyser un concept ou donner une anecdote sur un objet en particulier. Et donc, toutes les réponses qu'ils vont me donner vont être imprimées sur cartel et vont venir accompagner chacun des concepts pour que le nom de l'artiste apparaisse, pour que son processus de création apparaisse, pour qu'on ait vraiment des détails, des éléments sur le pourquoi de cette image, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et donc, comme c'est une première exposition à l'international, je voulais vraiment procéder de cette manière-là. Et puis, genre, je sais plus, tu m'avais posé une première question, mais je me souviens plus, je l'ai déjà oubliée.
Ouais, faut dire que j'ai balancé une salve, je ne sais pas pourquoi. Mais justement, avant, si, je sais ce que c'est, mais avant de rebondir là-dessus, par rapport à l'exposition, parce que c'est quand même quelque chose de super important. Alors en plus, là, on enregistre l'émission, donc on est début avril, donc évidemment, je surprendrai personne en disant qu'on est en période de confinement. C'est quelque chose aussi, parce que c'est un gros projet pour toi par rapport à la Suisse, donc je fais évidemment référence au Covid-19, hein, le fameux coronavirus, un des coronavirus. Justement, c'est un truc qui t'a fait flipper parce que quelque part, je veux dire pour l'organisation, d'habitude c'est vrai que Pixel Life c'est quelque chose qui est, on va dire, une galerie en ligne et là, quelque part, tu l'exportes vraiment physiquement et c'est une des premières ou secondes, je crois que tu en as fait une en France, tu vas me confirmer, que tu fais. Donc comment ça s'est passé cette période-là parce que je suppose que c'est un truc sur lequel tu planches depuis longtemps.
Bah en fait, c'est vrai que bon, depuis la création de la galerie, moi j'ai toujours voulu pouvoir créer des expositions qui soient en ligne. Et le fait est que bon, tu le comprendras très vite, à la fois tu es limité d'un point de vue technique. Moi à la base, je voulais une galerie qui soit en fait en 3D, où on puisse se balader dedans avec un casque de réalité virtuelle. Ça, c'est vraiment le projet à la base. Le problème étant que ben, très vite, en termes de coûts, de technique, c'était compliqué à mettre en place, donc j'ai été contrainte d'abandonner cette idée-là. Mais voilà, j'avais quand même envie de pouvoir créer des expositions, donc j'en ai fait effectivement plusieurs en ligne qui sont encore très très limitées. Et d'ailleurs, je commence à teaser un petit peu là-dessus. Mais cet été, il va y avoir un gros travail de refonte sur la galerie, où en fait l'exposition que je suis en train de préparer en Suisse va complètement intégrer l'espace en ligne de la galerie actuelle. Donc tout va être complètement refait, on va vraiment entrer sur un dispositif beaucoup plus poussé de scénographie en ligne. Et en fait, l'exposition sur laquelle je travaille en Suisse, c'est la toute première exposition physique que je vais conduire. J'en ai pas encore fait de physique en France parce que bah justement, les politiques sont et les institutions sont encore un petit peu frileuses de ce point de vue-là. Et c'est toujours compliqué en fait de leur proposer des projets de grande envergure sur ces thématiques-là. Donc là, on me laisse ma chance en Suisse et j'en suis très contente. Donc c'est aussi pour ça que j'ai ce projet à cœur. Et effectivement, avec la situation de confinement, ça nous a fait un petit peu peur au début parce que bah, si tout le monde reste chez soi, pas d'exposition possible. Là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a quand même l'exposition qui a été confirmée et maintenue. Donc elle va avoir lieu au mois de juin. Et dans le cas où, malheureusement, les circonstances faisaient qu'on était obligé de prolonger le confinement, parce que c'est une éventualité, hein, c'est envisagé, l'exposition se fera toujours. Elle sera juste décalée, en fait, reportée à la rentrée, potentiellement dans une autre institution, mais en tous les cas, l'exposition aura lieu. Donc, on est un petit peu rassuré là-dessus. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler de la question que tu m'as posée au tout début. C'était sur la question des droits à l'image, puisque ça, c'est effectivement. Outre les difficultés techniques que j'ai eues au départ quand j'ai créé la galerie, c'était effectivement une très forte problématique pour moi, c'était de dire comment je fais pour exposer un artiste en ligne, donc de manière numérisée, tout en lui, comment dire ça, tout en préservant ses droits d'auteur. Parce que effectivement, à partir du moment où tu mets une œuvre en ligne, bon bah la personne, elle peut très bien récupérer l'image et puis la faire reproduire après ou s'approprier son travail, etc. Et ça, c'est vraiment toutes les problématiques qu'il y a autour des expositions en ligne, c'est comment tu fais pour préserver les droits de chaque artiste. Donc, le fait est que moi, quand je mets des œuvres en ligne, généralement, c'est des œuvres qu'on peut déjà trouver en ligne, soit sur le portfolio de l'artiste, soit sur des sites spécialisés. Je peux pas mettre des œuvres qui lui sont personnelles sans son accord ou des choses qui n'apparaissent pas ailleurs parce que ça serait trop compliqué en fait de les protéger, de les préserver. Je suis un petit peu limitée aussi de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que là, je commence à, on va dire, à lancer une grosse campagne d'exposition physique, parce que je suis trop limitée, en fait, sur les expositions en ligne et que j'ai besoin d'exprimer beaucoup plus d'autres manières. Donc, en fait, toutes les expositions physiques que je ferai trouveront une forme en ligne à partir de la rentrée de septembre. C'est pour ça que je parle de grosse refonte. Mais je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment, sinon je grille mes cartouches. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrivera très prochainement. De toute façon, je peux pas encore dire beaucoup plus, mais ça va venir.
Et d'ailleurs, la question sur le droit d'auteur est intéressante. Tu vas m'expliquer, parce que c'est vrai que je ne connais pas forcément au niveau des images. Mais en fait, quand tu fais du concept art, tu le fais aussi pour un studio. Donc, tu as les droits d'auteur par rapport en fait, à l'artiste qui le crée. Mais est-ce que tu dois gérer aussi, avec, je suppose, avec les studios, qui en fait détient le plus de droits? Est-ce que c'est le studio qui a commandé, qui s'occupe de l'art en lui-même, ou le concept artiste? Comment ça se passe exactement? Parce qu'il y a des freelances, il y a peut-être des gens qui bossent aussi directement dans les studios. Le concept art, c'est quelque chose quand même, en tout cas dans sa définition, c'est arrivé avec les outils informatiques, enfin, c'est très, très jeune en fait comme activité, enfin, comme métier même, plutôt que d'activité.
En fait, le métier de concept artiste, il n'est pas si jeune que ça, pour être honnête, c'est juste que c'est très récent de l'avoir nommé ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, le travail du concept artiste, enfin, faire du concept art, c'est quelque chose qu'on trouvait déjà, par exemple, dans les studios Disney. C'est juste qu'on ne les appelait pas des concept artistes, on les appelait des illustrateurs. Parce que ils utilisaient en fait des techniques de dessin traditionnelles. Et donc, comme l'omniprésence du dessin était là, on n'avait pas encore cherché de nom pour des disciplines particulières. Ça a vraiment changé en fait à partir des années 2000. En fait, on a effectivement cette évolution des outils qui a été portée, notamment les outils numériques qui sont apparus à ce moment-là, en fait. Et c'est au moment où ces outils numériques sont apparus et que cette discipline du concept art commençait à maturer, de la même manière que les industries cinématographiques, vidéoludiques, etc. C'est vraiment ce moment, en fait, ce contexte particulier qui a fait que, on a cherché à donner un nom à cette discipline qui effectivement reposait sur du dessin, mais qui était vraiment profondément différent de l'illustration, quoi. L'illustrateur, il va représenter des choses qui existent déjà plus ou moins, alors que le concept artiste, il doit vraiment créer de A à Z quelque chose. Donc on est sur... on est quelque chose qui s'approche beaucoup plus du design que de la simple pratique du dessin. Et c'est là, en fait, vraiment à ce moment-là, donc en parallèle de cette apparition des outils numériques, qu'on a cherché à trouver un nouveau champ lexical. Donc là, par exemple, on parle de concept artiste depuis tout à l'heure, mais on peut entendre aussi des appellations comme concept designer, comme visual development artist. Ça, c'est des choses qu'on trouve beaucoup. Et d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu les portfolios des artistes, souvent aux États-Unis, on utilise beaucoup le visual development artist parce que s'ils sont beaucoup à la frontière entre le cinéma et l'animation. Et quand tu es concept artiste pour l'animation, il y a des spécificités beaucoup plus fortes en fait, autour de la recherche visuelle. Je pense que c'est ça qui fait que le terme est beaucoup plus utilisé. Mais en tout cas, en France, on utilise certainement beaucoup plus celui de concept artiste. Et du coup, j'ai encore oublié la question que tu m'avais posée au départ.
Mais c'est justement les studios, en fait, au niveau des droits, c'est les studios ont aussi une part. Donc quand tu fais tes démarches en fait pour mettre en valeur déjà les gens, comment tu les contactes? Je suppose qu'ils sont contents de parler de ce qu'ils font, mais aussi par rapport aux studios, par rapport aux droits, comment tout ça se négocie, tout simplement, on va dire, pour le mettre en valeur?
En fait, au-delà de la négociation que je fais avec les studios, les artistes sont déjà eux-mêmes en grosse négociation avec les studios. Parce que tout ce qui est produit en studio, dans le cadre d'une production, de base, ça appartient au studio. L'artiste est complètement dépossédé, on va dire ça comme ça, des droits de ce qu'il produit. Donc une fois qu'une production est terminée, donc j'entends que le titre, le jeu ou le film est sorti, seulement à partir de ce moment-là, l'artiste peut demander au studio une autorisation pour leur dire « Voilà, est-ce que vous m'autorisez à mettre des concepts que j'ai pu produire pour la pré-production du jeu, par exemple, sur mon portfolio, pour montrer un petit peu ce que j'ai fait ou quoi ?» Alors, il y a des studios qui donnent immédiatement l'autorisation, il y a des studios qui ne vont jamais répondre, qui ne vont jamais donner l'autorisation. Ça peut être le cas pour des grosses productions type Star Wars ou ce genre de trucs. Là, c'est très compliqué d'avoir les droits. Il y a même des artistes qui ont des autorisations, mais 5 ans après la sortie d'un jeu, par exemple. Ou vraiment, il faut attendre très très longtemps, plusieurs années. Et c'est en cela, en fait, que c'est compliqué pour les concept artistes, parce que on a des artistes qui travaillent sur des très grosses productions pendant plusieurs années et tu vois rien dans leur portfolio, tu as accès à rien, tu te dis « bon, le mec, il n'est pas très connu » ou « la nana n'est pas très connue », font pas grand-chose, tu vois pas, alors qu'en réalité, c'est juste des cadors, mais ils n'ont aucun droit, en fait, sur leur production, ils peuvent rien montrer. Donc ça peut arriver que des artistes, produisent pendant 10 ans et qu'ils aient rien à montrer. Mais c'est pas qu'ils produisent rien, c'est juste qu'ils n'ont pas les droits, en fait. Et ça, c'est une vraie problématique pour les artistes. Alors, il y en a certains qui passent un petit peu outre tout ça en disant « Bon, écoutez, le jeu, il est déjà sorti. Moi, ça fait 2 ans que j'attends, on m'a toujours pas donné l'autorisation. Je décide que je vais les mettre en ligne. » Voilà. On a des artistes qui prennent le risque de le faire. Si les studios ne le voient pas, c'est de la chance. S'ils le voient et qu'ils décident d'attaquer, ils ont entièrement les droits, la possibilité. Ça, c'est quelque chose que j'observais beaucoup en fait, dans les différents médias pour lesquels j'ai travaillé juste avant. Ça nous arrivait, nous, de créer, par exemple, des articles avec plein de concept art qui ont été produits par un artiste pour un titre en particulier et de recevoir, dans les 2 heures qui suivent, un avertissement du studio en disant « Vous n'avez pas l'autorisation, l'artiste n'avait pas l'autorisation de publier ça, on vous demande de supprimer immédiatement. » Et auquel cas, t'as intérêt à faire très très vite parce que tu peux avoir des retombées qui sont assez... assez intimidante et plus que radicale, quoi.
Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu m'as parlé d'une anecdote qui est assez sympa, enfin qui est sympa, peut-être que sur le coup, tu rigolais pas, toi. C'est que quand tu étais encore au niveau des études, tu as participé à un concours qui s'appelle « Ma recherche en histoire de l'art en archéologie en 180 secondes » où il fallait présenter, je crois, le mémoire. Et il t'est arrivé justement un problème par rapport à tous ces droits d'auteur. Est-ce que tu veux développer là-dessus ou tu veux qu'on passe à autre chose?
Bon, en fait, les concours « Ma recherche en 180 secondes », j'en ai fait deux, des concours comme celui-là. J'avais été sélectionnée à 2 concours. Il y en a un qui avait lieu à l'INHA, donc l'Institut National d'Histoire de l'Art, et un autre qui était organisé au Château de Fontainebleau, en fait, donc c'était voilà, des journées où les chercheurs venaient présenter leurs recherches. Alors, le titre est un peu nul, quoi, ma recherche en 180 secondes, en réalité ça durait beaucoup plus longtemps que ça, mais bon, bref. Et j'avais participé à ce truc-là pour parler justement de mes recherches dans le cadre de l'université, hein, sur le paysage dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'avais fait tout un petit speech un petit peu sur le concept art et j'avais montré pas mal de concepts, en fait. Sauf que, je sais même pas comment ils sont tombés là-dessus. Et j'ai reçu un petit mail, en fait, quelques jours après la mise en ligne de cette intervention que j'avais donnée ce jour-là. Et en fait, c'était un studio qui était tombé dessus, qui me disait « Bah, écoutez, votre présentation, nickel, j'ai rien à dire. Mais par contre, vous n'avez pas les droits, en fait, pour ces concepts-là. Nous, on ne veut pas qu'il soit présenté au public, donc on vous demande de faire retirer la vidéo, quoi. » Et donc, j'ai dû batailler un petit peu avec l'INHA pour que la vidéo soit retirée, parce que sinon, ça m'engageait à des petits soucis de droits financiers, etc. Donc, j'ai dû faire retirer la vidéo, donc ce qui est assez, assez rigolo, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça. Si aujourd'hui, ils étaient tombés dessus, je pense que ça ne leur aurait pas posé problème, la vidéo serait restée. Mais dans ces années-là encore, bon, c'était encore un peu plus polémique, on va dire.
En parlant justement des interventions, bon là tu présentais bon, dans ce cadre-là, il y a aussi une chose que tu fais beaucoup, et c'est en lien avec Pixel Life, c'est des conférences et tu participes aussi à des colloques. Donc est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est lancé ça, comment tu as été contacté, est-ce que c'est toi qui as fait les démarches pour justement là pour le coup en parler voilà, devant un auditoire, on va dire physique, même si après c'est, on peut retrouver ça en vidéo, c'est l'avantage du net maintenant, c'est que quand on peut pas y participer, genre pour le pécor comme moi qui habite très loin en bas de la France ou quand on est en confinement, ben, l'avantage c'est que vous pouvez regarder et c'est hyper important aussi. Donc comment ça s'est passé ce côté conférence, colloque, quelle est la manière dont tu les fais et la régularité aussi avec laquelle tu les fais, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que tu avais annoncé en début d'année, je crois, enfin début d'année, on va dire scolaire, donc la rentrée 2019. C'est quelque chose qui se développe encore plus là ces derniers temps.
En fait, la recherche, moi j'ai toujours adoré ça. Hein, quand j'étais en master en études à Rennes, je faisais un master de recherche parce que voilà, c'est pas pour rien que j'ai fait des études de journaliste aussi. Hein, j'aime bien chercher, je suis curieuse sur beaucoup de choses. La dimension recherche, elle a toujours été importante dans mon parcours. J'étais pas hostile à l'idée de partir sur un doctorat après le master. Mais ça s'est pas fait, pour notamment une raison, c'est que quand j'étais en études à Rennes et que j'étudiais effectivement le paysage dans les jeux vidéo, j'ai eu beaucoup de problèmes en fait autour de mon sujet, notamment parce que l'université en fait ne reconnaissait pas la légitimité du jeu vidéo. Pour eux, le jeu vidéo n'avait rien à faire en fait dans le cursus histoire de l'art, c'était pas une forme artistique, donc ça avait rien à faire là. Et de fait, j'ai subi une petite on peut dire ça, une petite vague de harcèlement aussi à ce moment-là, de pression en fait de la part de certains enseignants qui me refusaient en fait l'accès à certains cursus parce qu'ils voulaient pas que j'en fasse partie, quoi. Donc ça a été dénigrement sur dénigrement pendant 2 ans. Et en fait, ça a été très très dur psychologiquement parce que moi j'étais évidemment convaincue de mon sujet et je travaillais très très dur en fait pour y arriver. Et de voir que on mettait des bâtons dans les roues à mon parcours juste parce qu'on n'appréciait pas mon sujet, je l'ai très mal vécu. Et en fait, je me suis dit que si c'était comme ça dans l'université à Rennes, ça serait sans doute pareil ailleurs. Et du coup, je me suis dit que j'étais pas prête. Déjà 2 ans, pour moi, ça avait été un enfer en fait dans cette université-là. Je me suis dit, si je dois vivre ça encore 5 ans ou 6 ans dans le cadre du doctorat, enfin, je vais pas tenir en fait, je vais pas tenir. Et je me suis dit que voilà, si je poursuivais là-dessus, ça ferait pas beaucoup bouger les lignes. Je me suis dit que si je me lançais moi à titre indépendante sur ces thématiques-là, avec une galerie d'art, avec de la critique, avec des conférences, avec de la médiation sur un large public, il y aurait plus de chances en fait que je puisse faire bouger les lignes que en restant dans la recherche. Malgré tout, ça ne veut pas dire que la recherche n'a pas d'impact, bien au contraire. J'ai toujours eu envie de revenir un petit peu à cela, et c'est pour ça que j'essaye de participer le plus possible encore aujourd'hui à des colloques ou à la rédaction d'articles scientifiques. C'est parce que je pense que la recherche, déjà, elle est très active en ce moment. Moi, je suis très impressionnée par la qualité en fait de travail qu'on peut trouver aujourd'hui, et j'essaye d'être le plus possible en contact avec des chercheurs pour toujours voilà, alimenter mes réflexions, ne pas passer à côté de tout ce qui se fait aujourd'hui. Et oui, j'ai participé à quelques colloques, alors surtout sur les thématiques du concept art, puisque moi je vois bien, pour être passionnée par le sujet, il n'y a pas en fait d'articles scientifiques qui portent sur le concept art, ou très très peu, ou quand j'en trouve, c'est une ligne en fait sur 10 pages, 15 pages de texte. Et je trouvais ça en fait dommage de me dire, mince, effectivement, je ne fais plus partie de la recherche. Mais je sais que j'ai quelque chose à apporter sur ces thématiques-là, qui ne sont pas encore prises d'assaut par les chercheurs. Et ben pourquoi pas partir de ce parcours que j'ai pu avoir, de cette expérience en recherche, pour alimenter un petit peu et encore une fois mettre ma petite pierre à l'édifice. Donc c'est pour ça, oui, j'ai participé. Alors je ne sais plus trop à combien de colloques j'en ai fait. Il y en a deux qui ont une certaine importance. Un colloque auquel j'ai participé, alors c'était à l'école Émile Cole à Lyon, donc l'école dans laquelle je donne quelques cours de temps en temps. Où là, c'est effectivement, je suis vraiment revenue sur la question du paysage dans les jeux vidéo. Et un colloque que j'ai donné plus récemment, c'était à Strasbourg, où là, vraiment, j'ai fait un focus sur l'activité, la discipline du concept artiste. Ça me tenait vraiment à cœur. Souvent, ce genre de colloque, ça peut donner lieu à des publications. Donc là, je suis en train de rédiger tous ces textes de recherche en espérant qu'ils soient publiés. Mais évidemment, comme moi, je ne fais plus du tout partie du réseau de la recherche, je fais vraiment tout ça à titre de chercheuse indépendante. Ce n'est pas un statut qui est très valorisé de manière générale, enfin, surtout en France. Aux États-Unis, ça ne pose pas de problème, mais en France, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je n'avais pas envie de complètement quitter la recherche. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'essaye de conserver des petites activités de temps en temps. Je pense que c'est important. Voilà, dans une optique, une dynamique d'échange, de partage avec tout le monde. Et puis, en fonction du temps que j'aurai, dans les prochaines années, j'essaierai de poursuivre un petit peu, cette activité-là.
Dans le côté partage-échange, tu as aussi lancé des ateliers aussi. Pour le coup, on est plus dans le concret avec celle de l'échange avec les gens, mais encore plus concret qu'un colloque. Ça s'était venu comment cette envie? C'est pareil, c'est cette même volonté de vulgariser et de sensibiliser encore plus directement les gens en fait à toutes ces thématiques de concept art vidéoludique. Tu l'as construit comment ce type d'atelier et comment ça va se développer à l'avenir?
Bah en fait, les ateliers, ça a commencé il y a très longtemps, avant que je fonde la galerie Pixel Life Stories. Pendant mes études, je travaillais dans une galerie d'art contemporain. J'étais en charge en fait de la médiation, des visites autour des expositions qu'on conduisait. C'était moi aussi qui participais à la définition d'activités de médiation pour les jeunes publics, notamment les enfants. Et il y a eu un jour en fait où j'étais en train de travailler sur mon mémoire, et donc il y a ma responsable, directrice de la galerie, qui débarque et qui me dit: Tiens Marine, tu sais, le jeu vidéo, ça plaît beaucoup aux plus jeunes, j'aimerais bien pouvoir proposer un atelier ou quelque chose qui soit autour de cette thématique-là. Est-ce que tu penses que tu peux proposer quelque chose? Je dis, bah, écoute, oui, on peut faire quelque chose. Donc voilà, je suis revenue quelques jours plus tard avec des propositions. Et en fait, elle m'a dit, ah, mais ça, c'est super, il faut absolument qu'on fasse ça. Et elle me dit, bah, attends, je passe un coup de fil et je te rappelle, je suis OK. Et en fait, les ateliers que je devais organiser chez elle, elle m'a proposé de les faire aussi dans d'autres institutions en Bretagne, là où je faisais mes études à ce moment-là. Comme ça plaisait beaucoup, bah, en fait, j'en suis venue à devoir me créer mon statut d'auto-entrepreneur pour être rémunérée de ce travail-là, parce que de plus en plus j'étais contactée. Et c'est en fait tout ça qui m'a donné l'idée de créer cette galerie aussi et de poursuivre ces activités-là de médiation. Et donc ces activités, ces ateliers, je les donne depuis 2015 en fait. Donc ça va faire 5 ans déjà. Et les ateliers que je donne, alors, ça dépend vraiment les demandes en fait ou les thématiques qui intéressent. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup tourner cela autour du concept art, en fait, pour les plus jeunes. On est sur des ateliers, alors soit c'est des ateliers 8-12 ans, soit c'est des ateliers 12-16 ans. Ça reste quand même un jeune public. Et par exemple, parmi les ateliers qu'on peut proposer, il y a un atelier que j'aime beaucoup faire, en fait, avec les plus jeunes. C'est un atelier de character design, mais autour de pratiques manuelles, puisque, en fait, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, je leur explique un petit peu que c'est que le concept art, on fait des petits quiz en fait ludiques où j'essaye de leur faire apprendre, appréhender quelques petites notions. Et une fois qu'ils ont tout ça en tête, en fait, je leur donne des gros blocs d'argile et ils vont créer leurs propres figurines de personnages à partir de concept art. Donc j'essaye de leur faire comprendre quel type d'image ils vont utiliser, puis après de les mettre en volume, etc. Et on organise des expositions après avec toutes les productions qu'ils ont pu faire. Donc, pour moi, c'était important de créer des ateliers qui déjà soient accessibles à tous, qui puisse être fait pas seulement à Paris, parce que Paris, c'est prêcher les convaincus, mais de pouvoir proposer ces activités dans toutes les villes de province, et même des lieux où c'est beaucoup plus réduit en termes de population. C'est pas grave, en fait. L'idée, c'est de pouvoir proposer quelque chose à tous autour de ces thématiques. Et puis aussi de faire associer aux enfants le jeu vidéo à des pratiques qui soient créatives et manuelles. Le jeu vidéo, oui, on sait, c'est de la création informatique, très bien, c'est du code, etc. Mais justement, si tu veux faire prendre conscience un petit peu des activités artistiques qu'il y a derrière le jeu, c'est important aussi de pouvoir associer des activités manuelles à ce média, à ce médium. Et c'est pour ça, en fait, que je leur fais mettre un petit peu la main à la pâte. Et du coup, pour eux, le jeu vidéo, enfin, moi, j'ai plein d'enfants, quand je les reçois en atelier, qui me font « Ah, bah, il n'y a pas d'ordinateur ». Je dis « Bah non, aujourd'hui, on ne va pas faire de l'informatique, on va faire autre chose ». Et ils sont toujours un petit peu surpris par ça. Et au final, ils sont convaincus à la fin, ils sont très contents. Et du coup, je pense que c'est une bonne manière de changer un petit peu le regard aussi des publics sur ce média-là, et puis de faire avancer un petit peu les lignes, notamment en termes de légitimation artistique.
Tu parlais justement des problèmes où tu arrivais à une forme de harcèlement ou de pression. Je sais que récemment, tu as fait une super conférence à la BNF autour de World of Warcraft et j'avais vu passer sur Twitter que bon, il y avait eu des abrutis, il faut dire ce qui est, qui était un peu problématique, tout simplement parce qu'il s'avère que tu t'appelles donc Marine Mac et que donc tu es une jeune femme. Et on parlait justement de changer, de faire bouger les lignes. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis vraiment en plus du sujet du on va dire de l'art dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est quelque chose aussi encore que tu ressens pleinement ce côté ben, le regard sur quand une, on va dire, alors je mets les guillemets fictifs, quand une fille parle de jeux vidéo, ben, c'est un truc qu'on voit traîner, est-ce que c'est un truc que tu subis quand même encore?
Ah bah ça, c'est quelque chose que tu peux difficilement ignorer quand t'es une femme, que t'es jeune et que tu travailles, que tu côtoies en tout cas le monde du jeu vidéo. De toute façon, tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas tomber sur le harcèlement, sur le sexisme, sur des choses que t'as pas forcément envie de rencontrer. C'est vrai que j'étais assez surprise par rapport à cette conférence. Moi, j'étais très heureuse de pouvoir donner cette conférence à la BNF. Donc, on analysait en fait la direction artistique de World of Warcraft. Et en fait, j'ai été très surprise parce que bon, c'était quand même des retours positifs hein, que j'ai eus. Les gens étaient contents d'avoir ce genre d'événement proposé en institution culturelle. Mais je ne m'attendais pas à voir une petite vague de harcèlement avec des gens qui se permettaient de faire des remarques un petit peu graveleuses sur le physique ou d'envoyer des photos de parties que je n'ai pas spécialement envie de voir. Ou des gens qui vont te faire des commentaires de 20 lignes, 30 lignes pour te dire « Tiens, vous n'avez pas parlé de ci, tiens, vous n'avez pas parlé de ça, ça aurait été bien de dire ci, ça aurait été bien de dire ça. » En fait, de toute façon, tu t'exposes toujours, parce que tu es une femme, à devoir te justifier. Ce que tu vas raconter, ce que tu vas dire, au-delà du bien fondé de ton propos, de toute façon, ça va être critiqué, remis en cause, parce que tu es une femme. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, au début, quand j'ai lancé mon activité, ça a été très difficile à vivre. T'es plutôt du genre à rien dire et à laisser couler parce que bah, tu sais que si tu l'ouvres, bah, de toute façon, c'est fini. Au départ, je disais pas grand-chose et puis de toute façon, t'es tellement pris par surprise en fait par tout ça que ben quand c'est souvent comme ça, hein, quand t'es déstabilisé par une situation, ben sur le coup tu dis pas grand-chose parce que t'es pris de court quoi. Alors qu'aujourd'hui, bon, on va être honnête, les gens qui se permettent de faire ça fait longtemps que je les renvoie chier et que je ne prends pas des pincettes pour le faire. Le fait d'être une femme, ça veut pas dire que t'es inférieure aux autres. Le fait d'être jeune, ça veut pas dire que t'es inférieure aux autres. Bah oui, t'as peut-être moins d'expérience sur certains sujets, mais ça veut pas dire que ce que tu racontes, c'est inintéressant pour autant. Et puis, bon, autour de ce format, de la conférence, je pense que les gens n'ont pas compris que quand tu fais des conférences sur des sujets, justement, comme le concept art ou la direction artistique, encore plus quand il s'agit de grands studios, parce que là, on parlait quand même de Blizzard, en fait, tu peux pas dire tout ce que tu veux, tu peux pas montrer tous les concepts que tu veux. Moi, il faut savoir pour cette conférence, il m'a fallu entre 4 et 5 mois de négociation avec Blizzard pour avoir l'autorisation de montrer tel visuel ou de dire telle ou telle chose. Non pas qu'ils soient dans une politique de contrôle, mais pour des grosses institutions comme ça, évidemment qu'ils font attention à ce qui sort, à ce qui est dit, à ce qui est montré. Moi, je ne pouvais pas faire la sélection comme je voulais de concepts en disant, tiens, je vais complètement renouveler le regard sur le jeu. Ben, je ne peux pas, évidemment, je ne peux pas. C'est des contraintes qui sont inhérentes au format, qui sont inhérentes au studio avec lesquels tu travailles. Et ça, les gens n'ont pas compris, en fait. Ils n'en ont pas conscience et ils préfèrent clasher gentiment plutôt que d'essayer de comprendre le pourquoi. C'est toute la difficulté. C'est quand tu es une femme, que tu es jeune, que tu es dans une industrie qui est plutôt sexiste et qu'en plus tu travailles autour de politiques de confidentialité qui sont très très fortes, ça crée beaucoup, en fait, de conditions qui font que, bah oui, c'est difficile, en fait, de travailler de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, qu'il faut laisser tomber. Et puis moi personnellement, je continue mes activités. Je vois que ça fonctionne très bien, qu'il y a un bel engouement autour de toutes ces questions, ces problématiques. Donc c'est pas pour le désagrément de quelques-uns que je vais m'arrêter, quoi. Voilà.
Après, c'est quelque chose que je ne connais pas, je peux pas le vivre, donc je pourrais pas dire que je comprends, ça serait totalement présomptueux de ma part. Mais effectivement, comme tu dis, après, il faut pousser, puis toi, tu sais que tu as les connaissances, et si tu as des idiots qui partent en mansplaining en te disant, ah oui, mais machin, parce que moi, j'ai lu dans le forum, bon, mais c'est effectivement, mais c'est vrai que ça peut être très pernicieux, et comme tu dis, le plus important, et apparemment, c'est ce que tu as réussi à faire, même si ça doit pas être facile à vivre, c'est de dépasser ce fait où, en fait, tu culpabilises pour une erreur que tu ne commets pas, en fait. C'est le problème de toute cette société patriarcale dans laquelle on vit, effectivement, où souvent, j'ai l'impression que voilà, les femmes ou les jeunes femmes aussi doivent s'excuser limite d'être compétentes, ce qui est assez dramatique. Mais bon, ça évolue quand même petit à petit, j'espère.
Oui, bon, j'espère aussi. Bon, après, le fait de. On voit de plus en plus de femmes qui prennent la parole là-dessus, et même des hommes qui. Bon, je veux dire, tous les hommes ne sont pas sexistes dans l'industrie. Hein. Je veux dire, voilà, il y a encore des hommes qui ont l'intelligence de défendre leur consoeur. Mais ouais, enfin, au-delà de la culpabilisation, c'est surtout que quand tu es dans une industrie où sans cesse on essaye de te rabaisser à cause de ton genre, ça peut créer après des petits complexes d'infériorité ou de sensation de non-légitimité sur quelque chose. Alors quand tu travailles sur un sujet qui est déjà pas légitime, quand en plus on remet en cause ta propre légitimité, ça fait double illégitimité. C'est parfois compliqué à gérer. Enfin, au début, j'avais beaucoup de mal. Aujourd'hui, bon voilà, j'ai passé un petit peu outre, j'ai passé le cap. Bon, maintenant, j'accorde que de l'attention à mon travail et j'essaye de faire les choses avec le plus de qualité et d'engagement possible. Puis si ça plaît, tant mieux. Puis si ça plaît pas, ben, très honnêtement, tant pis, je vais pas m'excuser d'exister pour certains, quoi.
Oui, bah, de toute façon, de toute manière, je pense que ton boulot, et après, je laisserai les auditeurs, les auditrices, qui ne connaissent pas, bah, le découvrir. De toute façon, il y aura, comme d'habitude, tous les liens, de là, on peut te trouver, disponible sous, l'épisode. Et en fait, de toute manière, enfin, moi, je trouve que le boulot que tu fais est vraiment super. Moi, c'est grâce à ça que je commence à me familiariser un petit peu à toute cette thématique-là. J'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je peux partir directement. Hein, mais justement, donc, je te remercie, déjà à titre personnel, de faire ça pour partir sur un. On va dire pour glisser sur un côté plus léger, enfin j'espère, au niveau de l'émission et pour aller partir vers la fin. Alors avant de boucler, tu participes aussi à d'autres petites activités, notamment j'avais eu le plaisir de découvrir ta voix sur un podcast qui s'appelle Je Game Moi Non Plus, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Qui était très intéressant aussi et qui fait partie de ce genre de podcast justement, qui fait de l'analyse sur des thématiques qui sont très intéressantes. Moi, je crois que je t'avais découvert sur un épisode qui parlait de la conservation qui est très importante aussi dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses, bon, que je suppose que tu fais plus à un retrait, mais je sais que tu interviens encore. Et voilà, est-ce que tu as d'autres petits endroits où tu interviens? Je sais que des fois aussi, tu participes à des streamings, si je dis pas de bêtises, à lui passer sur Twitch, tout ça. Donc tout ça, en fait, c'est plus pour te, pas pour te reposer, parce que c'est très intéressant, mais c'est plus pour le fun, ou c'est quelque chose que tu fais quoi, comme une respiration? Comment ça se passe?
Bon, en fait, le truc, c'est que je suis du genre un peu frénétique, j'aime bien être un peu partout, tout le temps, faire plein de trucs différents. J'aime pas du tout la routine, en fait, donc c'est bien d'avoir plein de projets dans tous les sens. Et donc, bon, je suis déjà pas mal prise par mes activités de conférencière, d'enseignante, de directrice d'expo, etc. Donc, je fais pas mal de choses. Mais j'aime bien aussi pouvoir participer un petit peu au projet des copains. Et du coup, donc oui, effectivement, le podcast Je Game Moi Non Plus, c'est un podcast qui a été monté par un ami qui s'appelle Mehdi, des Babies Organiques, qu'on peut trouver facilement sur Twitter, qui fait souvent des petites émissions, voilà, sur des thématiques conjointes aux jeux vidéo, à la pop culture, etc. Et donc, je fais partie de l'équipe des podcasteurs, donc on essaye de proposer de temps en temps quelques sujets. Donc là, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un peu plus compliqué de proposer des choses. On avait fait ensemble deux sujets. Alors, il y en avait un, effectivement, sur la conservation et la préservation des jeux vidéo. Il y avait, par exemple, Fanny Rebillard qui était avec nous pour cet épisode. Et puis, j'avais fait un autre épisode. Alors, c'était il y a très, très longtemps. On l'avait tourné en 2018, mais on l'avait mis très tardivement en ligne. C'était sur l'art vidéoludique, il me semble bien. Bon, bref, voilà, plein de petits épisodes comme ça où on essaye de discuter un petit peu. Puis, c'est souvent l'occasion, en fait, de croiser la parole avec différents acteurs. Voilà, là, en l'occurrence, c'était beaucoup avec des chercheurs ou avec des enseignants. Donc, dans cette dynamique de partage, encore une fois, c'est important, je pense, de pouvoir discuter de tout ça. Et puis, de temps en temps, oui, voilà, je participe à quelques sessions de stream pour analyser en direct des jeux, etc. Bon, ça, c'est vraiment plus pour le côté perso, pour se faire plaisir un petit peu. Tout ce que je produis autour, j'ai plus beaucoup le temps, en fait, de jouer aux jeux vidéo. Pas comme je le voudrais, en tout cas. Donc, c'est une manière de compenser un petit peu, puis de se faire plaisir, tout simplement.
Pour rebondir rapido, tu parlais des chercheurs. Tu as nommé donc Fanny Rebillard. Donc, juste pour expliquer rapido, elle a fait un super travail de recherche et d'analyse sur tout ce qui est la musique de jeux vidéo. Et donc, je crois qu'ils ont lancé un podcast aussi tout récemment avec le confinement pour expliquer une musique. Donc, c'est pareil, vous pouvez la trouver sur Twitter, Fanny Rebillard. Et c'est super intéressant. En une pastille de 15 minutes, il y a une personne qui intervient, qui parle d'une musique. Et ça aussi, ça permet aussi de faire de l'analyse. C'est plus développé autour de la musique de jeux vidéo que le concept art, mais ça reste quand même encore de niche. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous pouvez y aller. Et tu parlais justement du côté donc plus léger, plus fun, et donc de pas trop jouer, en tout cas de plus jouer comme tu le veux. Et justement, quand tu joues maintenant, est-ce que tu as ce regard déjà analytique sur... en fait, quelle est ta vision de joueuse justement quand tu joues à des jeux? Est-ce que tu as ce côté justement à aller regarder, à aller creuser derrière justement tout ce qui est le design du jeu? Puisque je sais que tu as fait sur Pixel Live des sortes de critiques de jeux, enfin de critiques. En tout cas, d'avis sur des jeux, mais c'est pas un test contrôle technique, le truc un peu inutile. C'était plutôt le regard par le biais artistique. Je sais que tu as fait Journée par exemple, donc il y a un jeu magnifique aussi sur ce point-là. Est-ce que tu as vraiment ce regard-là? Est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que quand tu joues, des fois, ça peut aussi te gêner, mais tu te dis, bon mince, en fait, j'aimerais en profiter pleinement, et t'as encore ce côté analytique direct.
Je pense que c'est un peu le cas pour toutes les personnes qui étudient le jeu vidéo au quotidien, c'est qu'à partir du moment où tu commences à, entre guillemets, intellectualiser un peu ton propos, que quand tu regardes un jeu, forcément ton regard, il est pas neutre, quoi. C'est difficile de jouer à un jeu en mettant complètement de côté toutes tes réflexions sur le sujet. Moi, c'est vrai que quand je joue à un jeu, bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis très attentive et je ne peux pas m'empêcher de décortiquer en même temps que je joue, quoi. Voilà, ça, c'est très compliqué de mettre de côté tout ça. Après, c'est là aussi où tu sais qu'un jeu est très réussi, c'est quand il te fait un petit peu oublier ce que tu cherches à analyser et que juste t'es pris dans l'activité ludique. Quand ça arrive, ça m'a fait ça pour le jeu Gris, très récemment. Là, c'est le dernier jeu que j'ai fait, en fait. C'est pour ça que je suis en train d'enregistrer une vidéo sur la direction artistique du jeu. C'est vrai que ce jeu-là, il m'a beaucoup impressionnée parce que j'étais à la fois dans l'analyse, parce que j'étais impressionnée par ce que je voyais, et en même temps, j'étais vraiment plongée en fait, dans le game design et dans ce que ça proposait en termes d'expérience. Et de voir qu'on a encore des jeux comme ça qui arrivent à te faire pas mettre de côté tes lunettes, mais c'est un peu ça, quoi. Et c'est toujours très difficile, en fait. Je pense que c'est... Je sais pas si tout le monde le vit comme ça pour les personnes qui étudient le jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est très difficile de mettre de côté son regard de chercheur tu peux difficilement le faire, quoi. T'as forcément des réflexions qui te viennent, mais c'est pas un mal, en fait, hein. Je pense que tu vois les choses différemment. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des streams ou des podcasts, parce que ça permet de confronter un petit peu les visions, et ta manière de voir, elle sera pas du tout celle d'une autre personne. Donc, je pense que c'est en ça aussi que c'est important d'avoir des petits projets comme ça à côté, c'est que ça permet de faire bouger un petit peu ton regard et de percevoir les choses d'une manière que t'aurais pas forcément eu de faire pendant ta pratique de jeu.
Et donc pour conclure l'émission, comme d'habitude, on va faire un peu la LAN party. Donc je rappelle un peu le procédé. C'est tout simplement, tu organises une LAN party et quelles sont les personnes ou les personnages de jeux vidéo, tu as droit à 5 que tu invites ben, pour discuter et pour jouer évidemment avec toi. Donc voilà, donc j'ai besoin juste de 5 noms, si tu peux me les donner, qui c'est que tu as sélectionné?
Alors c'est un peu bizarre parce que quand j'ai commencé à réfléchir au conseil, je me suis dit, tiens, qui j'inviterais? Et en fait, enfin, tous les personnages auxquels j'ai pensé, pour la plupart, c'est pas des gens avec qui je pourrais vraiment parler, en fait. Enfin, pas d'une manière habituelle, tu vas comprendre pourquoi. J'avais pensé déjà au personnage de Journey. C'est un personnage qui m'a toujours beaucoup intriguée. C'est-à-dire qu'il peut pas communiquer de forme classique comme on pourrait le faire avec quelqu'un de notre entourage, mais je me suis toujours sentie hyper proche de ce personnage-là. Et j'ai réussi à communiquer avec lui de manière beaucoup moins évidente à travers les sons, etc. Moi, par exemple, j'ai un parcours de musicienne, de chanteuse, j'étais très sensible au son, à la sonorité, et c'est vrai que c'est un personnage qui, moi, m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir l'inviter pour voir comment on pourrait échanger, en fait, l'un l'autre, en espèce de réflexion sur les systèmes de langage, de communication. Donc, il y avait ce personnage-là. On parlait de Gris tout à l'heure par Nomada Studio. J'aurais bien aimé avoir ce personnage aussi pour peut-être plus comprendre son histoire, savoir un petit peu plus parce qu'elle ne peut pas s'exprimer encore une fois dans le jeu. Donc ça serait intéressant d'en savoir plus sur elle et de qu'est-ce qu'on fait là. Voyons voir qui j'aurais pu inviter. Sans doute Rayman aussi. Ça, c'est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué. Donc, puis je pense que c'est un personnage qui mettrait un petit peu l'ambiance aussi. Donc ça me va très bien. Par rapport à un dernier jeu que j'ai pu tester récemment, c'est les fameux Nomai dans Outer Wilds, que je trouve hyper fascinant, très bien travaillé en fait, soit en termes de narration ou encore une fois dans le système de communication qui a été mis en place pour pouvoir parler avec eux. Je trouve ça assez fascinant. En fait, tous les gens que j'inviterais, c'est des gens avec qui je pense que ce serait très compliqué de pouvoir discuter, mais. Ouais, c'est des personnages qui m'intriguent beaucoup et j'aurais aimé pouvoir les avoir avec moi le temps d'une conversation.
Tu me l'as cité 5, attends, il y en a aucun?
Alors, ouais, il n'en manque un. Je pense que j'aurais fait venir Lara aussi, notre célèbre Tomb Raider, parce que ça fait partie aussi des premiers personnages féminins auxquels j'ai joué quand j'étais plus jeune. Et elle était archéologue, elle était façonnée par l'histoire de l'art et je pense que ça m'a plus ou moins influencé moi aussi à titre personnel sur les études que j'avais envie de faire et les sujets qui m'intéressaient. Donc, puis bon, enfin une personne avec qui je pourrais échanger normalement, je pense. Donc, ça me convient bien aussi.
Bah ouais, mais tu vois, il y a toute une thématique autour du langage. C'est super intéressant hein, de voir justement ta sélection. Mais parce que justement, le langage, c'est pas forcément que le langage parlé. Il y a aussi tout le côté sensoriel. Et en fait, c'est ça, c'est les interactions entre les gens, la communication, c'est ce qui s'échange entre deux personnes. Mais ce qu'il y a entre, c'est hyper important en fait. Et c'est pour ça, quelque part, que tu pourras communiquer, mais différemment. Et ça voudra pas dire que ça sera moins bien ou voire meilleur. C'est quelque chose de particulier. En tout cas, je donnerais vraiment beaucoup de pour voir cette LAN party comme ça et pour y être, pour voir comment ça évolue, parce qu'effectivement, ça fait une espèce d'ensemble qui est très intéressant. Et pour rebondir sur Lara, qui a lancé ta vocation, donc on pourra dire merci à Core Design quelque part. C'est grâce à eux qu'on a Pixel Life Story.
Bah écoute, peut-être inconsciemment, hein, mais ça a joué en tout cas, ça c'est sûr.
Bon, mais c'est super. Ben, en tout cas, je te remercie vraiment d'être venu dans l'émission, d'avoir parlé un peu de tout ce que tu fais. Un, c'est déjà super important. Et puis voilà, c'est vrai que c'est bien aussi de voir la façon dont tu t'investis. Tu dis que t'es quelqu'un qui t'arrête jamais. Ben, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et c'est enrichissant et en même temps, c'est stimulant. J'espère que les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés Bah, ça leur donnera déjà envie de se pencher encore plus et sur Pixel F Stories et sur tout ce qui est le concept art, déguiser en fait un peu le regard, d'ouvrir le regard aussi. Et donc voilà, bah, rien que pour ça, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu à la seconde manette dans l'émission.
Bah, merci à toi pour cette invitation. C'était avec plaisir de pouvoir parler de tous ces sujets-là, en espérant que voilà, ça pourra donner des idées ou inspirer quelques-uns.
Ben, on l'espère, en tout cas, j'espère que ça va donner naissance aussi à des vocations, ou du moins que ça va pousser les gens à en parler. C'est comme ça, comme tu disais, c'est la transmission, c'est le fait aussi de donner envie. Puis en plus, pour parler un peu quand même des dessous de l'émission, je suis d'autant plus content. Alors, c'est pas que je suis pas content d'habitude avec des invités, mais c'est vrai que c'est une émission qu'on a planifiée depuis longtemps et on a enfin réussi à la faire. Puisque je crois que la première fois que je t'ai contacté, c'était à la rentrée dernière, en septembre 2019, puis ça s'est pas pu se faire. On avait testé, on a eu des problèmes, je crois, en décembre de technique.
Les mises à jour Skype et autres qui nous avaient complètement bloqués. Donc, on a triomphé finalement, on a réussi.
Mission réussie, on a triomphé, en plus sur une période qui est pas facile. Je me suis dit, avec le confinement, peut-être que Skype, ça va être surchargé, il y aura plein de personnes qui seront dessus et tout. Et donc voilà, je suis doublement content d'avoir enfin pu venir à la manette. Donc voilà, donc super, super content. Et évidemment, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à la partager, à en parler. N'hésitez pas à venir me parler si vous voulez me poser des questions. Encore plus, allez voir Marine, déjà pour la féliciter sur le travail qu'elle fait. Puis si vous avez des questions sur le concept art, tout ce qu'elle fait, ses contacts seront donc dans la description de l'émission, sur Twitter. On peut la retrouver un peu partout. Je crois que c'est quoi ? C'est ton Twitter, c'est tout basique, hein.
Oui, sur Twitter. J'ai une page Facebook aussi où je publie pas mal de contenu. Mais c'est vrai que l'essentiel se trouve quand même sur Twitter.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller la suivre, c'est vraiment passionnant. On a parlé des reviews PLS, donc ça existe en vidéo sur YouTube, mais ça existe aussi sur Twitter. Il y a des threads de temps en temps qui sont super intéressants. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous encore une fois d'avoir écouté. Si vous voulez tenir au courant des futurs épisodes, comme je rappelle, l'émission est maintenant mensuelle en saison 2. Vous pouvez vous abonner sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.